l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux,
la France,
dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête,
la France,
et de la liberté.
C'est pas la droite, la France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vidal.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vidal, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver en ce samedi pour un nouvel atelier du pouvoir. Un atelier du pouvoir un peu particulier aujourd'hui puisque nous avons le grand plaisir d'être en direct du Salon du Livre, que dis-je, Livre Paris, puisque c'est son nom désormais, en direct donc de la Porte de Versailles pour, une fois n'est pas coutume, si vous suivez l'émission régulièrement, vous savez que cela nous arrive, et bien pour explorer un lieu de pouvoir qui n'est pas celui de la politique aujourd'hui, mais en l'occurrence, vous l'aurez deviné, celui de l'édition. L'édition comme lieu de pouvoir complexe, puisqu'à la croisée de deux pouvoirs considérés comme souvent antagonique, pouvoir culturel d'une part, pouvoir économique d'autre part. Voilà donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui jusqu'à 13h30, mon cher Vincent Martini.
Parce qu'elle est directement liée à notre imaginaire, à la production d'idées, de connaissances et d'histoires qui façonnent notre vision du monde, l'édition est un univers à part. C'est aussi par conséquent un lieu de pouvoir à part. Cette semaine, en direct depuis le Salon du Livre, nous voulions réfléchir dans l'atelier du pouvoir à la singularité de ce pouvoir. Pouvoir symbolique d'abord, elle renvoie au prestige persistant du livre dans la société française qui fait d'une PME comme la plupart des maisons d'édition un lieu de pouvoir central autour de laquelle se pressent journalistes, hommes politiques et intellectuels. Économique ensuite parce que un secteur au chiffre d'affaires annuel de près de 6 milliards d'euros est un enjeu majeur, porteur d'emplois, disposant donc d'un réel pouvoir. L'édition n'est pas un marché comme les autres, le livre n'est pas un produit comme les autres, disait déjà Jack Lang en 1981, mais c'est un marché tout de même, avec ses acteurs en concurrence, ses enjeux économiques, ses rendez-vous et ses coups de théâtre qui, eux, ne sont pas de la littérature. Depuis 30 ans, cet univers s'est transformé, concentré, juste un chiffre qui l'indique, alors qu'il existe aujourd'hui environ 5700 éditeurs en France, 80% du chiffre d'affaires de l'édition a été réalisé par 10 éditeurs seulement. Il est aussi bousculé, ce monde, par des nouveaux acteurs comme Amazon et des nouveaux supports comme le livre électronique. L'édition, en tant que pouvoir, c'est enfin l'image de la France comme pays de culture à l'étranger, donc un soft power puissant, un pouvoir d'influence parfois mondial qu'on ne peut négliger. Comment se manifeste ce pouvoir de l'édition? Comment s'organisent les relations de pouvoir dans cet univers singulier? Comment ces rapports de force sont-ils bousculés par les évolutions du marché? Que nous dit finalement l'édition de l'évolution de notre société? Voici quelques-unes des questions cruciales que nous posons à nos invités en direct et en public depuis le Salon du Livre de Paris, dans ce nouvel atelier de pouvoir consacré cette semaine à l'édition comme lieu de pouvoir.
Nos invités, deux personnes qui connaissent particulièrement bien ce monde de l'édition, une éditrice et un universitaire. L'éditrice, c'est Sophie de Closet, PDG des prestigieuses éditions Fayard, et ce depuis un peu plus de 2 ans, puisqu'elle occupe ce poste depuis le 1er janvier 2014. À ses côtés, donc, un universitaire, Olivier Bessard-Banqui, professeur à l'université Bordeaux 3, auteur de plusieurs ouvrages sur le monde de l'édition et son évolution. Il publie ces jours-ci Le goût des livres, une anthologie de textes, donc, sur l'amour des livres au Mercure de France. Et puis, pour notre séquence internationale, nous irons aujourd'hui en Corée du Sud. La Corée du Sud qui est, vous le savez peut-être, cette année l'invité d'honneur du Salon du Livre. L'occasion pour nous de nous pencher sur ce monde très vivant de l'édition dans ce pays, ce que viendra nous expliquer à ce micro dans une vingtaine de minutes Jean-Claude de Cressinzo, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille et éditeur de littérature sud-coréenne.
Le projet de loi relatif au prix du livre qui vous est soumis aujourd'hui présente un caractère tout à fait exceptionnel. Refuser d'abandonner les prix des biens culturels aux lois destructrices du marché, tel est l'un des soucis du gouvernement pour le livre comme pour d'autres activités culturelles. On l'a souvent dit, sans malheureusement en tirer les conséquences. Dans le passé, le livre n'est pas un produit comme les autres. C'est une création de l'esprit qui ne saurait être soumise sans une protection, en tout cas une régulation particulière, à l'unique loi du marché. Et la question posée devant vous à travers cette loi est de savoir si notre pays entend maintenir vivante et forte une grande tradition artistique de création, ou si au contraire, notre pays choisira la voie de la facilité et de la routine. L'enjeu du débat d'aujourd'hui ne réside pas seulement dans la discussion, l'amendement ou l'adoption d'un projet de loi, qui n'est qu'un projet de loi parmi d'autres à proposer. La question au centre de notre débat, c'est l'avenir de la création littéraire en France.
Jack Lang, à l'Assemblée nationale, c'était pendant le débat, l'examen de son projet de loi sur le prix unique du livre. Nous étions le 30 juillet 1981. Il était tout jeune ministre de la Culture. Bonjour Olivier Bessart-Banqui.
Bonjour à vous.
Est-ce que 35 ans plus tard, maintenant, vous diriez que le livre tel qu'il a été défini par Jack Lang n'est toujours pas un produit comme les autres en France et que, comme le souhaitait ce ministre de la Culture socialiste à l'époque, il a été extrait en quelque sorte des lois du marché ordinaire ?
Oui et non. Bien évidemment, l'adoption de cette loi a été regardée par tous les acteurs comme un élément majeur pour protéger ce qu'étaient les équilibres anciens du livre. Donc c'est une loi dont on peut dire qu'elle a globalement sauvé les belles librairies. Certaines autres, évidemment, ont disparu, hélas. Mais enfin, disons que nous sommes encore dans un pays très vivant de ce point de vue. Et ces librairies font vivre donc des éditeurs créatifs, inventifs, mettent en avant leur production. Des personnes viennent dans les librairies et donc continuent de découvrir cette production qui est encore très riche. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'évidemment, la best-sellerisation, l'industrialisation, disons, de la production, évidemment, par ailleurs, se sont poursuivis. Et donc, ce à quoi nous avons pu assister, c'est une sorte de glissement, de plus en plus net, de la créativité vers des structures parfois nouvelles, parfois anciennes. Il y a de très belles maisons qui appartiennent à des groupes, bien sûr. Mais de plus en plus, ce à quoi nous assistons, c'est quand même, disons, la poussée remarquable de petits éditeurs talentueux en province ou à Paris.
Sophie de Closet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG des éditions Fayard, et donc quand vous entendez à la fois Jack Lang et puis ensuite Olivier Bessart-Banqui nous dire d'un côté le livre n'est pas un produit comme les autres, mais aussi qu'il y a une transformation de ce monde de l'édition, quel est votre regard d'éditrice, vous, sur 30 ans plus tard, la situation du livre et votre métier d'éditeur ? Est-ce que c'est pas un métier comme les autres ou est-ce que c'est un métier industriel comme un autre ?
Non, je pense que c'est pas un métier comme les autres et je pense que le livre est évidemment pas un produit culturel comme les autres et que la loi Lang a permis en effet de préserver un écosystème de librairies extrêmement forte qui soutient une des particularités de notre métier qui est que quelle que soit la structure capitalistique de la maison d'édition, une économie de l'offre. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à publier, à rêver et à susciter, à promouvoir et à publier des bouquins que personne n'attend, parfois que personne ne veut lire et que dont personne n'a l'idée. Et la librairie, en effet, c'est un endroit dont vous sortez souvent avec un livre dont vous n'aviez pas l'idée qu'il existait auparavant. Alors que la librairie en ligne est généralement un endroit où vous achetez le livre que vous avez choisi d'acheter auparavant et qui laisse pas cette place à la surprise et à la découverte. Et pour nous, en effet, c'est essentiel qu'on puisse rester dans l'économie de l'offre et de la proposition.
Sophie de Closet, vous êtes, en tant que PDG des éditions Fayard, une femme de pouvoir, forcément, puisque vous avez des auteurs, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez... Comment vous définiriez ce pouvoir particulier qui est sans doute lié à l'objet livre et à la place qu'il a dans l'imaginaire français ?
Femme de pouvoir, je vous laisse, mais c'est... Enfin,
tout... De fait.
Oui, ok. Non, ce qui est vrai, ce que Vincent Martini soulignait, c'est qu'il y a une disproportion folle entre la taille et la réalité d'une PME artisanale qui fait des petits prototypes de 40, une quarantaine de personnes comme Fayard et le poids symbolique qu'elle occupe dans le champ intellectuel. Ça, c'est sûr, et c'est dû à la force du livre dans le débat politique, dans l'imaginaire des gens, dans la vie des gens aussi. Et en ça, le livre peut être un objet de pouvoir.
Est-ce que c'est lié aussi, vous pensez, au lien entre le monde du livre et le monde des médias en général ? Le fait que, bien sûr, les médias relaient la publication des livres et donc démultiplient des fois l'impact de certains livres, contrairement à d'autres produits qui sortent, par exemple ?
il démultiplie de moins en moins, je trouve, et je m'en désole, l'impact des livres. Et ils ont même de plus en plus souvent à se nourrir des livres, les rédactions, et les étant dans des situations d'une précarité que je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler. De fait, les livres servent parce que il y a des bonnes feuilles et que ça fait du rédactionnel gratuit, parce que les auteurs viennent participer gratuitement aux émissions et que donc du coup ça nourrit en effet le paysage médiatique et ça donne une caisse de résonance à nos livres.
Olivier Bessarbanqui, vous avez écrit une histoire de l'édition française, vous connaissez bien cette histoire. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une transformation du rôle du livre dans la société française, ou est-ce qu'au contraire le livre reste dans un imaginaire très fort, ou est-ce qu'avec le temps vous avez tendance à penser que tout ça s'affaiblit?
Non, pas du tout. Ce qui est très étrange, c'est que d'abord, le livre, il faut le rappeler, est très très varié. Donc derrière ce nom, il y a Kant, il y a de grands écrivains français, il y a des ouvrages de détente, de divertissement. Et donc évidemment, nous avons tous des rapports multiples et vraiment, encore une fois, très inattendu avec le livre. Et donc ce que l'on peut remarquer, c'est que de plus en plus il tend à devenir plutôt un objet de loisir, de détente, de divertissement, et paradoxalement ça ne semble pas vraiment affaiblir son rôle symbolique, son poids symbolique,
son prestige
chez nous. Je le vois très bien avec nos étudiants qui ont un rapport passionnel au livre, qui lisent tout le temps. Dès que je demande en classe à quelqu'un de me montrer un livre, ils en ont tous dans leur sac, mais néanmoins
ils les achètent,
mais ce sont plutôt des poches, ce sont plutôt
même
des ouvrages
poches,
issus de collections, disons, de divertissement. Mais néanmoins, l'attachement à l'objet reste très fort.
Sophie de Closet, vous voyez, pas forcément d'accord avec ce que vient de dire Olivier Bessarbanqui. Vous dites, parce que c'est ça qui est intéressant, que finalement le prestige reste globalement le même, même si la société a évolué. Et pourtant, les volumes ont diminué. Par exemple, les grosses ventes, vous, Fayard, vous publiez beaucoup de livres d'histoire, notamment, oui, d'essais. Dans ce domaine, ça a quand même beaucoup réduit ces dernières années.
Les ventes, le chiffre d'affaires des sciences humaines et sociales a quasiment diminué de moitié, je pense, depuis 20 ans. Alors on se réfère toujours à... C'est énorme. On se réfère encore à la... C'est pour ça que j'ironisais en disant que s'ils lisaient beaucoup, ils achetaient plus, en tout cas, de livres, les étudiants, de livres de sciences humaines et sociales. En tout cas, pas beaucoup. Mais c'est parce que je pense qu'il y a un rapport au temps qui a changé. C'est que je pense que justement les médias font la caisse de résonance d'essayistes, d'intellectuels, d'historiens qui sont très présents à la télévision, à la radio, dans les médias. Il y a de plus en plus, par exemple, de magazines de vulgarisation consacrés à l'histoire. Et une fois que vous avez lu tout ça, et ben les 3 heures ou les 4 heures que vous demande la lecture du livre, vous avez l'impression que vous pouvez les consacrer à autre chose.
Vous voulez dire que le livre ne suffit plus en lui-même, il est pris dans un écheveau de différents supports médias.
Non, je veux dire que la concurrence pour le temps des gens est de plus en plus rude, mais on le ressent tous dans nos vies, c'est-à-dire que le livre, il est en compétition avec les jeux vidéo, avec les séries, avec EasyJet et avec Bricorama. Et donc du coup, les 3 heures ou les 4 heures de concentration, de solitude et de silence que demande la lecture d'un livre, ça, c'est exigé beaucoup des gens. Et quand ils ont l'impression que finalement la promesse de lecture n'excède pas beaucoup ce qu'ils en ont entendu dans les médias, pourquoi est-ce qu'ils consacreraient 4 heures à ce livre?
Alors on va revenir dans un instant sur ces différents acteurs qui font le monde de l'édition et comment tout ça est structuré aujourd'hui. Mais juste avant de vous retrouver, Olivier Bessarbanqui et Sophie de Closet, je voudrais vous faire entendre un historien du livre, très très réputé de référence, Jean-Yves Mollier, qui s'exprimait dans Le Grain à Moudre sur France Culture le 19 avril 2010.
Au fond, on a assisté effectivement dans les 10 dernières années à des rachats successifs par des groupes de plus en plus financiers et de moins en moins industriels. Et au fond, c'est plutôt ce basculement d'entreprises industrielles qui étaient présentes depuis longtemps dans l'édition vers des entreprises financières dont le but, effectivement, c'est simplement de dégager la rentabilité maximale. Longtemps, le système français a été fluide. Il y avait 2 majors, je le répète, 4 groupes moyens et au moins 200 petits éditeurs appartenant au syndicat de l'édition. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus la possibilité pour les petits de devenir moyens et pour les moyens de devenir grands. C'est là où, effectivement, l'oligopole à franges a changé radicalement de visage à partir du moment où, en 2002, à cause de la gestion que je n'oserais qualifier de Jean-Marie Messier, à cause du naufrage qui a consisté, effectivement, à vendre ce qui avait été le groupe de la Cité, ce qui était devenu Havas Publications Éditions, et ensuite à l'anglaise dans le rêve américain de Messier, Vivendi Universal Publishing. C'est cette fracture considérable de l'automne 2002 qui a fait que le paysage français ne s'est pas encore remis de cette véritable secousse, comparable alors cette fois-ci au volcan, qui s'est produite. Il faudra sans doute attendre pour savoir si des petits éditeurs qui entrent dans le système peuvent véritablement devenir des groupes moyens et ensuite devenir des grands groupes.
Olivier Bessavant, avant qu'on revienne un peu sur ce que vient de dire Jean-Yves Mollier, j'aimerais qu'on fasse un peu une présentation. On est dans l'atelier du pouvoir et je crois que nos auditeurs comprennent pas forcément comment ça fonctionne, ce monde de l'édition. Est-ce que vous pourriez nous dresser une sorte de topographie du monde de l'édition? C'est qui les grands acteurs? Je parle pas forcément de noms, mais est-ce que c'est les distributeurs, les éditeurs? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit paysage, comme ça, en quelques phrases, de ce monde de l'édition?
Oui, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, vous demandiez à Sophie de Closet si elle avait du pouvoir. Évidemment, elle a le pouvoir de dire oui ou non si elle veut faire un livre et publier tel auteur. Donc c'est un pouvoir énorme. C'est l'apanage et la beauté de la mission de l'éditeur. C'est quelqu'un qui dit oui ou non, enfin, qui dit plus souvent non, espérons-le, que oui. Et donc, effectivement, ce sont d'abord les éditeurs qui, disons traditionnellement, ont toujours été les véritables acteurs centraux dans cette affaire. Il est vrai que plus cette industrie a gagné en épaisseur, plus les logisticiens, les diffuseurs distributeurs ont pris de l'importance, et donc effectivement de plus en plus ils peuvent décider par exemple d'imposer l'arrêt de telle collection si ça ne marche pas, enfin ils peuvent exercer des pressions selon les rapports avec les éditeurs avec lesquels ils sont en lien. Donc de plus en plus effectivement le pouvoir glisse de ce côté-là, mais les auteurs ont aussi ne le négligeons pas, un pouvoir, puisque c'est ce qui vous intéresse. Un grand auteur réputé qui est courtisé sans cesse du lundi au dimanche par tout un ensemble de maisons, il a aussi ce pouvoir d'aller où il veut et d'exiger un certain nombre de choses.
Et 35 ans après la loi Lang, l'État a-t-il encore une politique du livre? Est-ce qu'il y a encore un pouvoir de l'État dans ce domaine?
Bien sûr, mais je ne suis pas certain que l'État puise beaucoup dans ce domaine. En vérité, pour moi, ce qui détermine la forme et les évolutions du livre, c'est le comportement des lecteurs. Et donc, le véritable point pour moi essentiel, c'est que seront les lecteurs demain, une fois que la génération du baby-boom, hélas, nous aura quittés. Que feront les lecteurs qui les suivront? On sait qu'à chaque génération, on perd des gros lecteurs et on ne sait pas, évidemment, ce que sera le comportement. Nous y reviendrons sans doute plus tard, ce que sera le comportement des prochaines générations.
Sophie de Closet, vous êtes d'accord ou pas?
Alors, un distributeur qui exige l'arrêt d'une collection, ça n'a aucun sens. Mais aucun sens.
Un diffuseur.
Non, ça n'a juste pas de sens, même économique. C'est pas une vision idéaliste, totalement alignée en plein syndrome de Stockholm d'une patronne de filiale du groupe Hachette. Ça n'a pas de bon sens. À partir du moment où c'est les tuyaux, les diffuseurs, les distributeurs qui commencent à diffuser de ce qu'on met du contenu, ils savent très bien, eux, les premiers, qu'ils auront plus rien à vendre. Ça n'a pas de sens.
Vous savez très bien que les représentants font souvent des remarques, le directeur commercial, des remarques sur le choix de tel graphisme ou telle chose. Ils ont tout le temps une pression possible.
C'est pas eux qui décident.
Ah non, bien sûr.
Encore heureux qu'ils font des remarques, qui sont payés pour ça, pour faire des remarques par rapport aux attentes
du
marché.
Mais ils sont pas éditeurs normalement.
Mais c'est pas eux qui décident, c'est les éditeurs qui décident. Sinon, ça ne marche pas à la fin.
Sophie Closet, vous m'amenez justement à vous poser une question sur votre pouvoir. J'évoquais tout à l'heure votre pouvoir en tant qu'éditrice. Vous êtes donc PDG d'une maison qui appartient à un groupe. Ouais. Donc, quel rapport de pouvoir vous entretenez avec le groupe?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, quelle est votre indépendance par rapport au groupe? Qu'est-ce que demande le PDG du groupe auquel vous appartenez? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et D'accord. Dans quel écheveau de pouvoir okay. vous mouvez?
Alors, le quand Arnaud Nourry, puisque c'est lui le patron de l'Hachette Livre, quand il m'a proposé de prendre la direction et la présidence des éditions Fayard, je lui ai demandé justement ce qu'il attendait en termes d'objectifs chiffrés même, ce qu'il attendait de Fayard. Et il m'a regardé un peu goguenard en me disant, mais est-ce que vous vous rendez compte un peu de... Hachette Livre, c'est le numéro 3 mondial de l'édition, est-ce que vous savez combien on fait de résultats? Oui, vous êtes au courant, vous voyez bien que Fayard, que vous fassiez plus 30% de résultats ou moins 20% de résultats, c'est une sorte de grosse larme dans cet océan-là. Donc moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous déployiez la maison, que vous la redynamisez, que ce soit l'endroit où ça se passe, que vous publiez des auteurs dont on parle, des très bons auteurs, que vous continuez à valoriser le fond. Alors évidemment, si je fais tout ça, ce à quoi, avec une équipe formidable, on s'emploie, évidemment que la maison va être prospère, et que d'ailleurs elle l'est, et qu'elle l'est de plus en plus, et que c'est ce à quoi je vise. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y a une logique de rentabilité maximale, comme disait Jean-Yves Mollier, qui pèse sur des maisons de prestige. Je parle pour la littérature générale, qui est ce que je connais intimement.
Alors justement, Olivier Bessarbanqui, par exemple, quelles sont ces tendances dans le monde de l'édition ? On entendait Jean-Yves Mollier dire qu'il y a de plus en plus de groupes financiers dont les logiques sont financières qui prennent le pas sur les anciennes maisons d'édition. Est-ce que vous diriez, un, que c'est vrai ? Deux, que c'est une tendance qui est toujours actuelle ? Là, l'archive qu'on écoutait était en 2010. Est-ce que ça a changé ? On sait que c'est un univers très concentré. Comment ça se passe, l'évolution de ce marché ?
En fait, je n'ai pas tout à fait la même compréhension des choses que Jean-Yves Mollier. Pour moi, c'est plutôt... l'irruption des médias de masse et tout ce que cela a pu apporter dans le domaine du livre qui mécaniquement, c'est-à-dire à la fin des années 60 et plus fortement au cœur des années 70 ou évidemment à partir des émissions très célèbres notamment de Bernard Pivot, les éditeurs ont tous découvert tout d'un coup que par cet effet multiplicateur, il était désormais possible quasiment de lancer des best-sellers en un soir et donc tout cela a énormément servi la cause du livre très grand public. Et donc, pour moi, il n'y a peut-être pas lieu d'opposer forcément des financiers à des industriels. Cela a attiré, un grand capital. Et ce grand capital, petit à petit, évidemment, il a pris le contrôle des maisons qui étaient les plus importantes. Et donc, ça n'a fait que servir une seule cause, celle du livre très grand public, qui, par les médias de masse, peut toucher, de fait, plus facilement un grand public.
Donc, tout va très bien dans le meilleur des mondes, Sophie de Closet. Vous êtes d'accord? Le fait qu'il y ait des groupes industriels, ça pose aucun problème, aucune question. Finalement, vous êtes PDG du groupe Fayard. Il y a 30 ans, vos prédécesseurs, ils vivaient le même monde et c'était pas plus mal. Ou est-ce que vous diriez que ça a apporté des contraintes quand même, cette concentration du secteur?
Moi, je pense qu'il y a quand même une forme de vertu qui est que... qui sont, ce que vous disiez un peu, pour être d'accord quand même sur un point, les lecteurs. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, ce qui crée de la valeur et de la richesse, quelle que soit la structure capitalistique des entreprises dont on parle, c'est quand même les livres qu'on publie et qui rencontrent un public. Et donc, du coup, le système a intérêt à ce que cette rencontre-là se fasse et se fasse de plus en plus, de façon la plus diverse possible et la plus favorable possible. Et on sait bien que dans des métiers de création... On n'a pas intérêt à donner des contraintes, des grilles, des normes pour brider la création d'éditeurs et encore plus d'auteurs. Parce que sinon, ça n'existe pas. Par exemple, là, France Culture, puisqu'on est sur France Culture, le prix France Culture Télérama, il est remis à qui ? Olivier Bourdeau, pour En attendant pour Jungles, publié chez Finitude. Alors, c'est quand même un signe de résilience incroyable par rapport au système tel qu'il est décrit par Jean-Yves Mollier, ou même un peu par vous.
Le fait que ce
c'est
soit une toute petite maison d'édition,
d'accord, indépendante, qui n'est pas à Paris, et qui arrive à faire un succès en s'appuyant sur le réseau libraire, mais aussi sur les médias. Parce que c'est François Bunel, la Grande Librairie, c'est France Culture, c'est Télérama qui ont permis aux lecteurs de songer dans ce roman.
Alors, toujours une question sur les rapports entre différents acteurs du monde de l'édition. Il y a une récente enquête du département des études et la prospective du ministère de la Culture, qui date de mars 2016, qui montre que les jeunes auteurs sont de plus en plus mal payés. On reçoit de moins en moins d'argent en tant qu'auteur quand on rentre dans cette carrière. Il y a une sorte de grogne des auteurs, le salon du livre s'en est fait l'écho. Est-ce que vous diriez que cette réalité-là, qu'est-ce qu'elle recouvre?
Elle est très simple. Nous publions de plus en plus de titres. Il n'y a pas forcément plus de gens pour tout absorber. Et donc, mécaniquement, les livres se vendent moins. Mais ce flot de livres sert aussi, paradoxalement, la cause de quelques auteurs stars comme Houellebecq, qui, là, pour le coup, évidemment, sont très, très achetés. Et donc, il y a d'un côté des auteurs millionnaires, très peu, et puis de l'autre, effectivement, des auteurs malheureux qui estiment injuste de ne jamais vendre assez.
Mais est-ce que ça donne plus de pouvoir aux éditeurs sur les auteurs? Parce qu'il y a, après tout, plus d'auteurs, plus de livres, alors l'un ou l'autre.
Et plus de précarisation aussi, Sophie Closet.
Ouais, enfin, il y a quand même une... Enfin, ça peut pas être un fonctionnariat, la littérature. Enfin, évidemment qu'il y a des auteurs millionnaires, des auteurs qui gagnent rien. Il y a des auteurs qui vendent, qui rencontrent un public. Puis il y a des auteurs qui publient des livres qui sont parfois pas terribles. C'est un peu normal qu'ils gagnent pas d'argent. Déjà, ils ont été publiés, c'est super. Donc, faut quand même pas... Enfin, après, la précarisation des auteurs... évidemment, moi, je trouve que les auteurs, en revanche, si on prend un peu de surplomb par rapport à ce sujet, sont dans une situation bien moins favorable que bien des créateurs en France. Il n'y a pas de statut d'intermittence, il n'y a pas de retraite pour les auteurs, donc on passe notre temps à les chérir, à dire que c'est un enjeu de pouvoir, et pourtant la puissance publique soutient beaucoup, beaucoup les libraires, mais je trouve qu'à part un saupoudrage de bourses à la création, notamment par exemple par le CNL, structurellement n'aide pas du tout les auteurs autant que beaucoup d'autres professions artistiques. Ça me paraît un sujet plus structurel et plus important qu'il y en a qui gagnent de l'argent, d'autres pas.
Olivier Bessarbanqui et Sophie Closet, on va se retrouver dans un instant, mais tout de suite, il est 13h16 sur France Culture. Place à notre séquence internationale, direction aujourd'hui la Corée du Sud.
France Culture, l'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Pour prolonger notre discussion sur le rapport de pouvoir dans l'édition en France, l'atelier du pouvoir vous emmène loin, très loin de la France, dans un pays où l'édition est un secteur florissant et prestigieux, la Corée du Sud. Dans ce pays, qui je le rappelle est l'invité du Salon du Livre de Paris cette année, le secteur de l'édition pèse environ 3,8 milliards d'euros, porté par plus de 6000 maisons d'édition, pour la plupart de très petite taille, et particularité qui démontre la vivacité du marché coréen, 10 000 traductions de livres étrangers sont parues en 2014, dont 77 parmi les meilleures ventes dans ce pays. Alors, pour comprendre les ressorts d'un tel succès, puis analyser les particularités du monde de l'édition coréen, je reçois aujourd'hui Jean-Claude de Crescenzo. Bonjour Jean-Claude Crescenzo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en civilisation et littérature de la Corée à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes également traducteur, éditeur, fondateur de la maison d'édition de littérature coréenne qui porte votre nom et conseiller littéraire pour le CNL pour l'année de la Corée. Enfin, vous êtes directeur, il faut le citer, de cette revue de littérature coréenne en langue française que le Madang qu'on trouve à la fois en ligne et en librairie. Alors, ma première question, elle porte un peu sur les raisons du fait que l'édition soit si florissante en Corée du Sud. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce prestige de l'édition ?
C'est effectivement un secteur très, très florissant, avec des scores relativement impressionnants. En fait, quand on y regarde de près, on s'aperçoit que la structure de ce marché est surtout portée par le système, par la publication de l'éducatif, du scolaire et du parascolaire, qui représente à peu près 60% du chiffre d'affaires. Et là, il y a une raison historique assez majeure. La Corée du Sud a fait l'investissement dans l'éducation à partir des années 60-70 pour se développer. Pour vous donner par exemple un petit chiffre, la France dispose aujourd'hui d'à peu près, je crois, 70 à 80 universités. J'ai pas fait le compte, mais ça doit être à peu près ça. La Corée, c'est 230 universités, même si elles sont pour beaucoup et pour la grande majorité des universités privées, il n'en demeure pas moins que c'est un investissement constant qu'a fait le gouvernement coréen. Et évidemment, vous abordez la question du pouvoir, ça ne vous aura pas échappé. Et donc, inévitablement, la structure du marché de l'édition a suivi cette dynamique.
Alors justement, quand on en regarde un peu les acteurs du marché de l'édition coréen, quels sont-ils ? On a parlé des acteurs en France, du rapport éditeur-distributeur-auteur. Est-ce qu'il y a des très grands groupes ou est-ce qu'au contraire, il y a une édition qui est très explosée dans plein de petits éditeurs complètement indépendants ?
C'est un peu les deux, en fait. Il y a de très grands groupes avec d'un nombre de salariés tout à fait impressionnant, mais ça, c'est une des caractéristiques de la Corée. Dès qu'on fait quelque chose, il y a beaucoup de salariés à l'appui. Des groupes qui font à peu près 500, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais quand on regarde là encore une fois de plus, la structure du secteur des éditions, on découvre que pour beaucoup, les maisons d'édition sont faiblement opérantes. Sur, je crois, 35 000 maisons d'édition, il y a seulement 30% de maisons d'édition qui sont relativement actives. Les autres, parfois, se contentant de publier un livre ou deux dans l'année.
Et on sait que l'État joue un rôle tout à fait particulier parce que depuis novembre 2014, il y a un prix unique du livre en Corée du Sud. C'est tout à fait récent. Et quel rôle jouait l'État avant cela? Et puis quel rôle joue-t-il aujourd'hui? En quoi il régule ou pas ce marché?
En Corée, l'État a toujours été assez formateur et il opérait un formatage de l'économie relativement important. Il y a une tradition politique qui nous vient des années 60-70 de ce point de vue. Et donc, inévitablement, le gouvernement a surtout privilégié la concentration en grands groupes qu'en Corée on appelle des chaebol. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de ce pays que tout y soit grand. Par exemple, si les librairies disparaissent au fur et à mesure, la Corée a perdu 50% de librairies en 7 ans. Même si elle a gagné 2200 bibliothèques, elle a quand même perdu un réseau majeur de librairies. Dans les quartiers, on ne trouve plus beaucoup de ce genre d'offres. Et par contre, au centre de Séoul, vous avez deux immenses supermarchés dans lesquels on y trouve absolument de tout et qui sont des moments de rassemblement à la fois festifs et autres. Et donc, si vous voulez, le gouvernement favorise plutôt la concentration en grands groupes. au travers de politiques marketing extrêmement agressives et qui rejoignent une dominante de ce gouvernement qui est rentrée dans une problématique de soft power voici une quinzaine, vingtaine d'années approximativement, et qui donc inévitablement pour occuper la Corée, c'est un des 10 marchés mondiaux dans l'édition quand même, pour occuper cette position, n'hésite pas à pousser à la concentration.
Alors ma dernière question, elle porte un peu sur les évolutions les plus récentes de ce marché. Qu'est-ce qu'on peut dire qui est nouveau sur le marché de l'édition coréenne et peut-être qui singularise ce pays en termes d'édition, peut-être en termes de livres électroniques par exemple ?
Une des premières caractéristiques de cette évolution, elle est certes malheureuse, puisque c'est la littérature générale qui souffre le plus de cette concentration. Et du point de vue de la diffusion, par exemple, si la poésie fait encore des scores remarquables, il peut y avoir des recueils de poésie qui sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en Corée. Quand on pense à notre poésie française, on est bien triste. Et le livre électronique a pris approximativement une quinzaine de pourcents de parts de marché. En fait, ce qu'essaie de faire le prix unique du livre, c'est de rétablir l'équilibre qui existait précédemment. Il y a 4 grandes plateformes qui se partagent la 50% des ventes. Et l'idée, c'est bien évidemment de remettre dans les librairies la possibilité de trouver des livres.
Alors Jean-Claude de Crescenzo, merci pour ce tableau et notamment donc ce que vous venez de dire sur le livre électronique. Avant de repasser la parole à nos deux autres invités, je voudrais vous faire écouter justement Arnaud Nourry, qui est PDG du groupe Hachette Livre. 4 septembre 2011, donc il y a 5 ans, sur France Culture, dans Soft Power.
Au premier semestre de l'année en cours, 20% du marché du livre aux États-Unis était passé en format électronique, un livre sur 5, donc c'est tout à fait considérable. On s'y est préparé, on nous achète depuis 3 ou 4 ans, et c'est vrai que on est probablement le seul éditeur français à avoir cette exposition au marché américain et à cette nouvelle consommation du livre sous forme électronique. Ça va venir bientôt en France, donc de ce point de vue-là, je crois que mes confrères vont rapidement découvrir le bonheur de négocier avec Apple, Amazon, Google, de gérer des fichiers d'EPUB dans plein de formats différents, parce qu'évidemment tous ces gens-là ne travaillent pas exactement avec les mêmes fichiers, tout ça est pour les semaines ou les mois qui viennent en France aussi. Si vous voulez, on a une taille Hachette dans notre métier qui fait de nous un partenaire important et respecté, y compris pour les entreprises de cette taille-là. Et finalement, ce que j'observe, c'est que même si ce sont des rapports de force compliqués compte tenu de la taille de ces entreprises, on obtient des accords équilibrés avec eux à partir du moment où ils ont besoin de nos textes.
Arnaud Nourry, le PDG du groupe Hachette, qui était donc sur France Culture le 4 septembre 2011. Olivier Bessarbanqui, on entend Arnaud Nourry, on a l'impression il y a 5 ans que le livre électronique c'est vraiment pour demain, que tout va changer, et finalement 5 ans plus tard, on a l'impression que c'est pas vraiment le cas, puisque non. Le livre électronique ne représente je crois que 2% du marché.
Oui, mais en France on sait qu'on est resté très en retrait par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, dont les caractéristiques sont très très différentes. Cela ne veut pas dire que demain, si l'offre est très intéressante, que les Français sont mieux équipés, ils ne liraient pas bien davantage sur tablette ou liseuse. Je terminerai juste sur ce point. Je pense que les jeunes générations sont déjà beaucoup sur des plateformes comme Wattpad, etc. Donc ils prennent des habitudes de lecture gratuite digitale, et il est bien difficile pour l'instant de savoir ce que pourrait être leur future lecture.
Vous êtes d'accord, Sophie de Closet ? Vous pensez qu'il y a un avenir pour le livre électronique ou au contraire, vous pensez qu'on va continuer à avoir une masse globale de vente de livres papier qui va progresser toujours et avec un livre électronique qui restera que marginal ?
Comme vous l'avez dit, en effet, il y a 5 ans, on pensait que le marché allait basculer beaucoup plus vite, donc je n'irai pas me risquer à vous faire des projections à moyen terme, de peur d'être ridicule plus tard. Mais en tout cas, c'est sûr que la cohabitation entre le papier et le numérique, qui ont des usages assez différents de pratiques de lecture et donc qui peuvent correspondre à des attentes différentes de gros consommateurs de livres, vont continuer à perdurer et à prospérer.
Et en même temps, il y a un autre enjeu qui est lié au livre électronique, mais qui ne le recouvre pas complètement et qui, là, a bousculé vraiment le monde de l'édition. Ces rapports de force, c'est la fameuse question Amazon. On va pas rentrer dans un grand débat parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes, mais qu'est-ce qu'on peut dire en un mot de ce qu'est devenu la relation avec Amazon, qui était vraiment perçue comme le grand méchant loup de l'édition française il y a encore quelques années? Est-ce que les relations se sont pacifiées entre les groupes industriels et Amazon, ou est-ce qu'on est toujours dans une hache de guerre qui est déterrée, Sophie de Closet?
Je ne crois pas du tout. Je pense qu'Amazon ne fait pas mystère de vouloir remplacer tout ce qui existe entre l'auteur et le lecteur. Donc je ne vois pas pourquoi les relations seraient soudainement améliorées. Non, je pense que, encore une fois, je suis désolé d'y revenir. Pour moi, ce qui sera déterminant, c'est le mode de consommation des lecteurs et donc leur rapport à Amazon ou non, leur fidélité peut-être à des libraires, leur volonté de découvrir d'autres livres autrement. Bien malin, qui peut dire aujourd'hui ce que sera le demain du livre.
Le mot de la fin là-dessus, Sophie de Closet, c'est ça vraiment l'enjeu de pouvoir pour l'éditeur aujourd'hui face à Amazon de maintenir son rôle, comme le laisse entendre Olivier Bessarbanqui.
C'est sûr que le contrôle du prix, qui depuis l'archive, vous avez entendu, a été une bataille notamment gagnée par Arnaud Nourri aux États-Unis, le fait que l'éditeur contrôle le prix du livre numérique et du livre en général était un enjeu essentiel pour maintenir notre écosystème. Après, même si le livre numérique n'est pas très élevé, chez nous c'est 4-5% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas la part des ventes papier ou numérique des ventes papier ou numérique en ligne est très grande. Et nous, un livre sur 5 est vendu sur Internet, que ce soit en papier ou en e-book. Et ça, c'est un basculement plus rapide en tout cas que celui vers l'e-book. Parce qu'on bascule de cette économie de l'offre à l'économie de la demande dont je vous parlais, qui à la fois d'une côté favorise la bestsellerisation et la polarisation sur quelques ventes, mais qui de l'autre permet aussi de maintenir un fond, puisque sur Amazon vous trouvez énormément d'ouvrages toujours disponibles.
Alors l'émission touche bientôt à sa fin. Ce qu'on vous a demandé aujourd'hui, plutôt que nous de vous proposer un conseil de lecture, puisqu'on est au Salon du Livre, c'est de nous suggérer, chacun très rapidement, d'une trentaine de secondes, un livre que vous avez particulièrement aimé ces derniers mois. On commence par vous, Olivier Bessarbanqui.
Alors, parmi les essais que j'ai pu lire, j'ai beaucoup aimé le dernier livre de William Marx aux éditions de Minuit, qui s'appelle « La haine de la littérature », et qui est donc une exploration de tout ce que, depuis Platon, on peut reprocher à la littérature, qui a justifié effectivement des rejets célèbres d'un ancien président de la République. Voilà, excellent livre.
Sophie de Closet.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'essai de Jean Birnbaum, « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme », qui était une sorte de réponse et d'analyse très puissante de la manière dont la gauche n'a pas voulu prendre en compte les motivations religieuses des acteurs des attentats. Et en revenant sur la guerre d'Algérie, Foucault, la révolution iranienne, il met ça en perspective d'une manière qui était le contrepoint d'un petit livre d'Alamadio qu'on avait sorti en début de l'année. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir la stéréo et c'était absolument passionnant.
Livre publié au Seuil, je crois.
C'est ça.
Jean-Claude de Crescenzo, pour vous ?
Écoutez, puisque je dispose du pouvoir de ne pas m'inscrire dans le quotidien, j'ai relu La littérature sans estomac de Pierre Jourde pour préparer ce livre, ce salon.
Un livre très critique et on finira d'ailleurs cette émission en citant donc le livre que vous sortez, Olivier Bessarbanqui, Le goût des livres, Mercure de France, mais aussi un livre publié par votre maison d'édition Jean-Claude Crescenzo, Fiction coréenne, chez De Crescenzo éditeur, et puis enfin retrouvé sur le site de France Culture à l'occasion du Salon du Livre, une série Histoire d'éditeur, Parole d'auteur avec trois parcours d'archives dans l'histoire de trois maisons d'édition à travers les intégrales d'Avoix Nues avec leurs auteurs phares.
Merci Olivier Bessarbanqui, Sophie Closet et Jean-Claude de Crescenzo. C'est la fin de cet atelier du pouvoir, une émission de Vincent Martini et Thomas Vider. Aujourd'hui, en direct donc du Salon du Livre, préparé par Cyril Baer, réalisé par Doria Zénine. À la technique aujourd'hui, Clément Daté, Gilles Manet pour l'organisation, Rémi Gouriou et Marie Bricou, que nous remercions. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @atelierpouvoir, Facebook également. Réécoutez cette émission en podcast. Nous, Vincent, on se retrouve samedi prochain, même heure, 12h50 sur France Culture. Et tout de suite, il est là, tout près de nous, prêt à prendre le relais. C'est Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Bon week-end à tous sur France Culture.
Et merci au public très nombreux qui est venu nous voir sur le stand du Salon du Livre. Thank you.